Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Hokkaido, c'est l'ancienne Ezo. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que son intégration au Japon ne s'opère qu'au XVe siècle, avec l'implantation d'une dynastie seigneuriale, les Kakizaki. Mais l'île n'est intégrée dans la souveraineté japonaise qu'à la toute fin du XIXe.
Oui, alors les seigneurs qui sont établis dans le nord-est de Honshu au XIVe siècle, enfin l'une des branches de ces lignages, prend pied effectivement dans le sud donc du Hokkaido, l'actuelle région de Hakodate pour ceux qui connaissent. Et là, on a la création d'un fief dirigé par cette famille des Kakizaki, qui change de nom d'ailleurs à la fin du XVIe siècle pour vous dire les Matsumae, c'est encore sous ce nom qu'on les connaît aujourd'hui, et qui établissent donc un fief tout à fait assez proche de ce qui pouvait exister dans le reste du Japon, en lien bien sûr avec le shogun d'Edo. Et ces daimyo, ces seigneurs Matsumae, entretiennent des relations de domination avec les populations locales, qu'on commence à désigner sous le nom de Ainu, justement à peu près à cette époque, c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIe siècle.
Évoquons justement les communautés de l'île d'Hokkaido. Les Ainu sont sans doute les populations qui ont suscité le plus d'intérêt, mais aussi de curiosité. Côté anthropologie physique, tout a été dit sur eux. Souvent vus comme des populations fossiles, voire reliques, on les a même dit blanches. Quoi qu'il en soit, que sait-on aujourd'hui sur l'origine de ces populations dites Ainu ?
Alors, c'est toujours très compliqué à débrouiller cette histoire, parce qu'en réalité, comme vient de le dire mon camarade, en fait, Hokkaido a beau être une île, c'est une île qui est entre Honshu et qui est entre des territoires plus nordiques.
Îles Kouriles
et, voilà,
et, qui et sont le territoire soviétique.
Exactement, connectés. Donc en réalité, il y a eu de la circulation de différents groupes humains de manière assez constante tout au long de ces époques-là. Effectivement, dans l'historiographie, on utilisait le terme Ainu il y a déjà un siècle, en essayant de rattacher ces populations aux populations préhistoriques. Bon, on sait maintenant que, bon, d'abord, c'est évidemment un anachronisme de parler d'Ainu pour les périodes les plus reculées. Et on sait qu'en fait, il y a tout un tas de cultures archéologiques qui se sont succédées, vraisemblablement à certains moments qui se sont affrontées. Et donc, les Ainu, c'est, si on était un peu plus rigoureux, on devrait considérer que c'est la synthèse de tout ce qui reste. Mais même à l'intérieur de leur propre histoire, il y a des moments où ils sont plus sédentaires qu'à d'autres moments, où ils sont plus horticulteurs que chasseurs, et tout ça, voilà, sur 5 siècles, ces sociétés ont une histoire, et la génétique ne nous dit pas cette histoire du reste.
La génétique, la linguistique ne vous apporte aucun élément ?
Alors, la linguistique est intéressante, parce qu'effectivement, on arrive à pister, dans l'extrême nord de Honshu, tout un tas d'éléments, c'est la toponymie qui rend parfois service, qui tendrait à indiquer que les langues Ainu étaient plus étendues que ce que l'on pensait, peut-être au début, en tout cas étaient plus étendues que le simple cadre de Hokkaido. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça nous raconte pas tant la genèse en fait de ces sociétés. La genèse, elle se fait vraiment au contact des différentes zones tampons qui remontent progressivement vers le nord de Honshu à mesure que la pression de l'État japonais fait remonter son front vers le nord de Honshu.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Pierre-François Souhiri, Laurent Ospoulos, parce que la zone est marginale, parce que les Ainu sont barbares, peut-on penser que l'introduction de l'agriculture du riz, comme la production du fer, n'ait été que plus tardive ?
Oui, alors dans le cas de l'extrême nord du Japon, l'introduction du riz est... Alors, à Hokkaido, c'est extrêmement tardif. On est au 19e et même au 20e siècle. Pour ce qui est du nord-est de Honshu, on sait qu'il y a eu... le climat n'a pas toujours été le même sur l'archipel. Et on sait qu'il y a eu, au 1er siècle de notre ère, le développement d'une civilisation yayoi, c'est-à-dire une civilisation de paysans rizicoles, dans le nord-est du Japon. Cette civilisation, en tant que telle, a disparu. On est revenu, en quelque sorte, à une étape de... Je ne sais pas si on peut parler d'étape, non, une société de chasseurs-cueilleurs. probablement lié à un refroidissement du climat à cette époque-là. Petit âge glaciaire et les rizières ne réapparaissent que très tardivement, guère avant le 10e, 11e siècle.
Oui. Effectivement, il y a un front, d'une certaine manière, de néolithisation de l'archipel qui démarre dans le nord de Kyushu au début du premier millénaire avant notre ère, et qui va finir quand même par toucher le nord de Honshu, en gros, au milieu du premier millénaire avant notre ère. Mais par contre, la greffe va pas prendre de manière aussi durable que ailleurs dans l'archipel, et on a de fait un recul. Des zones où on peut documenter vraiment la présence ancienne de rizières. Ça veut pas dire que les sociétés sont déshéritées ou je ne sais quoi, c'est simplement qu'ils se remettent à fonctionner selon des modalités qui sont davantage des modalités de prédation ou d'échange.
La culture Aïnou n'émerge que durant le 14e, 15e siècle. On les a cependant fait héritiers de la plus profonde préhistoire du Japon. Cependant, diverses cultures se développent sur l'île, le 4e siècle au 9e siècle, donc avec d'autres caractéristiques.
Oui, alors, on va laisser de côté les Aïnou juste pour cette tranche de temps-là. Effectivement, donc à mesure que on va avoir une entité politique qui forcit au centre de l'archipel, les réseaux d'échanges à moyenne et à longue distance sur les périphéries de cette entité politique vont s'étendre. Ces réseaux vont s'étendre et vont incorporer des populations qui culturellement, sans doute aussi sur le plan de leur manière de voir le monde, fonctionnent de manière tout à fait différente. Et ça va apporter des modifications dans le fonctionnement culturel de ces sociétés. Et c'est pour ça que, alors qu'à l'époque de la période des grandes tombes, au 5e siècle, par exemple, dans le centre du Japon, on commence à avoir ce type de tombes, on commence à en avoir dans l'actuelle région de Fukushima, donc on est vraiment dans le début là du Nord-Est, ça commence à être le début du Nord-Est, on va avoir, dans les marges de ce Japon archaïque, voir se développer des cultures qui sont plus tout à fait des cultures héritières directes du Jomon, par exemple. Et bon, alors l'archéologie japonaise leur donne tout un tas de noms. Dans le livre, on parle notamment d'une culture qui s'appelle la culture de Satsumon, qui fait partie donc de ces étapes au-delà de la préhistoire, mais où on a toujours des sociétés qui sont pas des sociétés très hiérarchisées, qui sont pas des sociétés qui font de leur économie sur la production de leur alimentation, mais qui sont hyper connectées malgré tout à tout ça. C'est ça qui est important à comprendre.
Ce que l'on connaît des Aïnous, c'est bien sûr Montandon ou André Leroy-Gourhan, du moins en France. Grosso modo, ce sont des sociétés de chasseurs de gibier marin. On est vraiment là dans quelque chose qui forme une sorte d'unité, la préhistoire du Pacifique Nord, de fait.
C'était le titre de la thèse d'André Leroy-Gourhan. Effectivement, et c'est pas faux. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette observation, que ce soit de Montandon ou de Leroy-Gourhan, c'est à un moment précis où effectivement ces sociétés sont comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que deux siècles plus tôt, c'est pas exactement comme ça qu'elles fonctionnent. Il y a des villages, il y a
des maisons souterraines.
Mais oui, il y a des maisons semi-enterrées, comme il en existait, comme il en a existé à plein d'autres époques à travers l'archipel. Donc il faut vraiment bien comprendre que ces sociétés ont une histoire et qu'elles ne sont pas égales à elles-mêmes tout du long. C'est ce type de réflexion qui font imaginer qu'on a des sociétés qui pourraient être de nos jours l'équivalent de sociétés préhistoriques.
Pierre-François Souiré, nous savons que les Aïnous paient un tribut au gouverneur, notamment en fourrure de vison, plume d'aigle, peau de daim. On peut même penser que pour payer les importations japonaises, les communautés Aïnous, qui sont bien sûr donc des chasseurs, ont été contraintes de se spécialiser dans des activités qui permettaient ces échanges.
Oui, par exemple, la culture Satsumon dont il a été question tout à l'heure, donc en gros du 11e au 14e siècle, est une culture qui connaissait l'agriculture. Il y avait donc une agriculture qui n'était pas une agriculture du riz, mais enfin qui était quand même une agriculture. Or, ces sociétés, au contact donc des populations japonaises qui avançaient vers le nord, se sont rendues compte que il était plus simple d'importer du riz, d'acheter du riz aux Japonais en échange d'autres produits, plutôt que de le cultiver soi-même.
Ce qui est intéressant, c'est que ces produits, ce sont des produits de luxe, même les algues, le saumon, visiblement,
tout à fait.
Donc, sont des produits destinés aux élites centrales.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un trafic donc qui se met en place entre le Hokkaido et Kyoto, la capitale, ou d'autres régions du Japon quand on est à l'époque d'Edo. Et ce trafic, évidemment, est un trafic. Alors bon, il y a les mammifères marins, il y a les pelleteries, enfin les peaux, le trafic des peaux.
Les plumes d'aigle.
Il y a les algues, le fameux kombu, qui est très apprécié par les classes dirigeantes japonaises à ces époques-là. En fait, les Ainu donc délaissent complètement leurs activités traditionnelles d'agriculture pour
se spécialiser
dans la chasse,
dans une dépendance,
dans la pêche, et de fait dans une dépendance, c'est-à-dire qu'ils sont assez rapidement dans ce qu'on appelle l'échange inégal, avec des populations plus développées sur le plan économique, qui leur refilent en quelque sorte de la verroterie ou des petites choses, du saké, du riz, en échange de tous ces produits, et les sociétés Ainu petit à petit s'appauvrissent en fait.
En tout cas, c'est une culture matérielle absolument extraordinaire. J'ai vu donc au Musée national de Tokyo une petite salle réservée aux Ainu. Ce sont des vêtements, il y a un véritable art Ainu.
Absolument.
À quand une grande exposition en France?
Absolument, il y a effectivement une culture Ainu qui existe bel et bien. Alors bien sûr, il s'agit de populations qui démographiquement représentaient quelques dizaines de milliers d'habitants, guère plus. Ce qui évidemment par rapport aux masses habitantes sur l'archipel ne comptait pas beaucoup. Mais elles ont développé une véritable culture autonome.